Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 28 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour cette heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, la rubrique personnages. Les grands titres de ce 28 février, une enquête indépendante sur la culture du travail au Parlement avec les termes de référence publiés bientôt. Auckland entre dans un verrouillage d'une semaine pour contenir la propagation du Covid-19. Et puis un focus sur la situation sanitaire en France où l'épidémie de Covid-19 menace de flamber. Le Premier ministre Scott Morrison est exhorté à enquêter sur une allégation de viol historique contre un député gouvernemental non identifié. La sénatrice des Verts Sarah Hanson-Young et la sénatrice travailliste Penny Young ont reçu une lettre anonyme concernant l'allégation. Madame Wong a également confirmé qu'elle avait pris connaissance de l'allégation pour la première fois en novembre de 2019 lorsqu'elle avait rencontré la victime présumée à Adélaïde. L'affaire a été renvoyée à la police fédérale australienne. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que le rapport d'allégation de violence sexuelle historique avait été reçu en février de 2020, mais l'enquête a été suspendue lorsque la femme de 49 ans au centre des allégations est décédée. Le ministre des Finances, Simon Birmingham, a déclaré que le gouvernement soutenait les efforts de la police.
Everybody is entitled to natural justice and it's important to back the police to do their job. We back the police to do their job in this and every other instance, and that's the right way to handle this. I don't wish to see anybody lose their rights to natural justice. I want to see the police empowered to do their job.
Gender Equity Victoria déclare que le choix de la personne qui dirigera l'enquête indépendante sur la culture du travail au Parlement est essentiel à sa légitimité. L'enquête a été déclenchée par l'allégation de Brittany Higgins, selon laquelle elle a été violée par un ancien membre du personnel au Parlement en 2019 alors qu'elle était employée dans le bureau de la ministre de la Défense, Linda Reynolds. Les termes de référence de l'enquête seront finalisés cette semaine avec une annonce également attendu sur qui dirigera l'enquête. La directrice générale de Gender Equity Victoria, Tanya Kovach, a déclaré que cette personne devrait être Kate Jenkins, commissaire australienne à la discrimination sexuelle.
We want somebody who is fully briefed under legislation to conduct the investigation, and that's our Sex Discrimination Commissioner, and that's who should be conducting the investigation into just how prevalent is gendered violence in our parliament. How deep does this go? How many women are afraid to go to work and are experiencing sexual harassment and the risk of sexual assault? None of them should be. Our federal parliament needs to be an exemplary workplace.
Le gouvernement fédéral lance une deuxième campagne d'information sur la santé publique, une campagne de 31 millions de dollars pour encourager l'adoption du vaccin contre le coronavirus. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le but de la nouvelle campagne était de fournir plus d'informations sur le déploiement national du vaccin en cours. Près de 30 000 Australiens ont été vaccinés depuis lundi dernier, dont 8 110 résidents dans des maisons de retraite pour personnes âgés et des personnes handicapées dans 117 établissements de soins. Auckland, en Nouvelle-Zélande, reconfiné à partir de ce dimanche et pour au moins 7 jours après la découverte de nouveaux cas de Covid-19. Les habitants d'Auckland devront rester chez eux, sauf pour le travail ou pour faire des achats de première nécessité. Les écoles et les magasins non essentiels seront fermés. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, demande aux gens de respecter les règles sanitaires.
There is no doubt that a contributing factor to the issue we are now facing is that the guidelines and indeed the rules have not always been followed. People who should have been in isolation weren't. That has created multiple high-risk situations. We do not ask of you any more than we think is necessary to keep you and your loved ones safe. Please follow the rules on behalf of everyone.
Aux États-Unis, un programme de secours contre le virus, le coronavirus, de 2,47 milliards de dollars australiens est présenté au Sénat après son adoption à la Chambre des représentants. Le président Joe Biden a félicité la Chambre pour avoir adopté le projet de loi et a appelé le Sénat à agir rapidement sur la mesure.
If we act now, decisively, quickly and boldly, we can finally get ahead of this virus. We can finally get our economy moving again. And the people of this country have suffered far too much for too long. We need to relieve that suffering.
En France maintenant, avec la situation sanitaire et une aggravation de la situation épidémique est à envisager dans les jours qui viennent, selon l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Reportage Pierre Olivier pour RFI.
En cause notamment le variant anglais plus contagieux qui est devenu prédominant en région parisienne avec une proportion qui dépasse les 55%. En une semaine, le taux d'incidence sur 100 000 habitants franciliens a bondi de 40 points, une hausse jugée inquiétante par les autorités sanitaires. En conséquence, le niveau 2 du plan blanc à l'hôpital a été activé. Depuis plusieurs jours, les établissements de santé d'Île-de-France se préparent à recevoir plus de malades atteints de formes graves du Covid. Ce samedi, la capacité d'accueil pour soigner ces patients a presque été doublée à l'échelle régionale pour atteindre les 1127 lits dits de soins critiques. En contrepartie, certaines opérations non vitales ont déjà dû être déprogrammées. Enfin, et c'est une première depuis le début de la crise du Covid, le nombre de lits dédiés à la maladie a été fixé de manière impérative pour chaque établissement de santé, aussi bien dans le public que dans le privé.
Et à Nice et une partie des Alpes-Maritimes, c'est le début d'un confinement localisé ce week-end. Les gens doivent rester chez eux pour limiter le nombre de contaminations. Mais la promenade des Anglais n'était pas déserte hier. Reportage Pauline Glaise. RFI.
120 policiers municipaux sont mobilisés dans Nice ce samedi, un peu plus que d'habitude. Des patrouilles longent notamment la très centrale avenue Jean Médecin. Pierre-Yves et sa fille sont arrêtés dans leur élan. En équilibre sur sa trottinette, ils peinent à sortir l'attestation.
C'est la première fois. Enfin, en trottinette, un peu moins quand même. Hein. Ah, pardon, c'est pas ça.
Votre adresse, monsieur ? Vous penserez bien le noter sur l'attestation Nice.
Oh, j'ai oublié, excusez-moi, voilà. J'ai totalement oublié.
Voilà, pour cette fois, ça ira, on va être conciliant.
J'ai pas trop l'habitude d'en faire, donc...
On va être conciliant, il n'y a pas de souci, mais la prochaine fois...
Un jour on en fait pas, c'est compliqué. Hein.
Dans la vieille ville, quelques dizaines de personnes participent à un petit carnaval pour alerter contre le mal-être psychologique lié aux mesures sanitaires. Emma, un masque de chat sur les yeux et la bouche découverte, a été verbalisée par la police nationale. Elle ne s'est pas préoccupée du montant.
Je sais pas, je m'en fous en fait. Parce que de toute façon, je suis non essentielle. Après, les policiers, ils comprennent, hein, ils exécutent les ordres, mais bon, je pense que la police, elle devrait plutôt être de notre côté, quoi.
Vous avez été verbalisé pour quoi
Je sais pas, j'ai même pas demandé, je m'en fiche. De toute façon, tout ce qu'on fait, on est verbalisé.
Roger n'a pas été contrôlé en allant faire ses courses et pourtant, il était prêt.
J'en ai même fait d'autres d'avance.
Mais l'attestation n'empêche pas de contourner un peu la règle.
Je vais tricher un petit peu à cause du chien.
La promenade du chien fait partie des 12 motifs de dérogation.
En Grande-Bretagne, la fille du capitaine Sir Tom Moore a rendu hommage à son père lors de ses funérailles après sa mort à l'âge de 100 ans des suites du coronavirus. Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale a levé des millions de livres sterling pour le service de santé britannique pendant la pandémie. On écoute Hannah Ingram Moore.
Who would have thought our little family gesture would become what it did? The first humble goal of £100 that quickly became 1,000, believing that would be tough enough. We just couldn't believe it, could we? When it reached £38.9 million, we are so proud of the way you handled everything that happened. We had been so close as a family before this, but we were thrust even closer together as the world became enthralled by your spirit of hope, positivity, and resilience.
En Afrique maintenant et dans le sillage de la mort de l'ambassadeur italien tué le 22 février dernier dans une embuscade en République démocratique du Congo, la veuve de Luca Attanasio, Zakia Sediki, parle de, je cite, de trahison de quelqu'un du programme alimentaire mondial. Explication d'Anne Lenir pour RFI.
C'était la première fois que mon mari se déplaçait de Kinshasa sans escorte armée, mais nous avons eu confiance dans cette organisation de l'ONU, affirme Zakia Sediki. Reprenant un extrait d'un entretien précédent au quotidien romain Il Messaggero, le journaliste du Corriere della Sera lui pose cette question. Vous avez déclaré que Luca Attanasio a été trahi par un proche de votre famille. À qui pensez-vous? Elle lui répond qu'elle déplore les fausses interprétations et précise: je ne pense à aucun proche de notre famille. Luca a certainement été trahi par quelqu'un du PAM qui savait que les moyens de sécurité n'étaient pas adaptés à la situation. De son côté, le directeur adjoint du programme alimentaire mondial au Congo, Rocco Leone, qui a survécu à l'embuscade du 22 février, dénonce des spéculations dans les médias et soutient que, pour le moment, il ne peut pas entrer dans les détails de ce qu'il s'est passé. Quant au ministère italien des Affaires étrangères, il rappelle que si ses fonctionnaires effectuent des missions d'organisation de l'ONU, ce sont elles qui ont la responsabilité de la sécurité. Et il insiste sur un point, les véhicules du PAM n'étaient pas blindés. Pour éclaircir cette affaire tragique et troublante, plusieurs enquêtes ont été ouvertes, dont une par le parquet de Rome, pour séquestration de personnes à des fins terroristes.
Et en Côte d'Ivoire, avec des saisies de cocaïne en provenance d'Amérique latine, le pays semble devenir un transit vers l'Europe. L'affaire Khashoggi et les séquelles de l'assassinat de ce journaliste saoudien. La CIA a publié un rapport, je rappelle, vendredi, et l'enquête pointe du doigt le prince héritier Mohamed bin Salman derrière l'opération. Les sanctions prises par Washington ne sont pas suffisantes. Explication de Lubna Anaki pour RFI.
Il faut faire plus. Sur CNN ce matin, Adam Schiff, qui préside la commission du renseignement à la Chambre des représentants, a déclaré que la décision de l'administration Biden est contradictoire. On ne peut pas imposer des sanctions contre ceux qui ont participé à l'assassinat de Jamal Khashoggi et ne rien faire contre la personne qui a donné les ordres, a dit Adam Schiff. Pour l'élu démocrate, il faudrait interdire Mohamed bin Salman d'entrer sur le territoire américain. Joe Biden ne devrait pas lui parler ou l'inviter ou le rencontrer, a expliqué Adam Schiff. La sénatrice Elizabeth Warren, elle, estime que toutes les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite devraient être suspendues le temps de redéfinir les relations avec Riyad. Même critique adressée par les éditorialistes du New York Times ou du Washington Post. Ils estiment que oui, en ordonnant la publication du rapport de la CIA, Joe Biden a changé de ton par rapport à Donald Trump, mais qu'au final, rien ne change vraiment si aucune sanction ne vise le prince héritier saoudien. Tous reconnaissent que la situation est délicate et comprennent que Joe Biden ne veuille pas rompre les relations avec l'Arabie Saoudite. Mais pour le Washington Post, où écrivait Jamal Khashoggi, c'était l'occasion pour Joe Biden d'envoyer, je cite, « un message fort à Mohamed bin Salman, mais aussi à tous les dictateurs qui n'hésitent pas à tuer des journalistes pour les faire taire ».
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 31 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 26, Hobart 22, Canberra 30, Sydney 28, Brisbane 31, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce 28 février, une enquête indépendante sur la culture du travail au Parlement avec les termes de référence publiés bientôt. Auckland entre dans un verrouillage d'une semaine pour contenir la propagation du Covid-19. Fin du journal, merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord le rugby et le match France-Écosse de ce dimanche, reporté pour cause de Covid-19. Explication d'Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Un positif qui vient s'ajouter aux 15 avérés depuis le début de la semaine dernière. 12 joueurs dont le capitaine Charles Olivon et le demi de mêlée Antoine Dupont et 4 membres du staff dont le sélectionneur Fabien Galthié, soupçonné par ailleurs d'être le patient zéro puisqu'il aurait enfreint les règles de la bulle sanitaire imposée autour des Bleus. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a diligenté une enquête pour que la lumière soit faite sur ce cluster forcément très voyant. Il était donc logique que le groupe de surveillance des tests destination recommande le report de la rencontre. Il s'agissait du 3e match du 15 de France dans cette édition 2021 du tournoi, le premier à domicile après 2 probantes victoires à l'extérieur. Reste à lui trouver une nouvelle date. On évoque donc le 3 juillet, une fois la saison en club achevée, loin, mais mieux qu'une défaite sur tapis vert à laquelle la France a finalement la chance d'échapper.
Hier, il y avait 2 matchs de ce tournoi des 6 nations avec la victoire de l'Irlande contre l'Italie 48-10 et la victoire du Pays de Galles contre l'Angleterre 40-24. On vous présente maintenant le calendrier de la Coupe du Monde de 2023, la Coupe du Monde de rugby qui a été dévoilée. La France, le pays hôte. Hugo Moissonnier, RFI.
Et on débutera par une affiche de rêve, le pays hôte. La France donc affrontera les célèbres All Blacks de la Nouvelle-Zélande en ouverture. Match à suivre le 8 septembre 2023. C'est un petit peu loin, mais Charles Olivon, le capitaine du 15 de France, y pense déjà.
Je pense que si on aime ce sport, si on aime le rugby, c'est forcément un match de rêve. Déjà, cette compétition-là, c'est une compétition à part. Alors en plus, pouvoir la débuter en France contre les All Blacks, qui est une équipe mythique, voilà, je pense que ça n'a pas d'égal. On sera devant notre public, devant nos amis, notre famille, donc forcément, ça rajoute beaucoup d'attentes autour de l'équipe et beaucoup d'émotions pour les joueurs comme les supporters. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'engage dans une compétition, encore plus quand elle est à domicile, c'est pour la gagner, ça me paraît évident. Donc voilà, on va y aller étape par étape et on va essayer de se préparer au mieux pour ce grand, très grand événement.
Et en phase de poule, la France affrontera également un qualifié de la zone Amérique le 14 septembre et puis le qualifié de la zone Afrique le 21 septembre à Marseille en 2020.
On passe maintenant au foot en France avec d'abord l'OM qui a un nouveau président depuis vendredi, c'est Pablo Longoria. Précision d'Hugo Moissonnier pour RFI.
Effectivement, c'est la surprise du boss. L'Américain Frank McCourt a finalement lâché le président qu'il avait nommé dès son rachat de l'OM en 2016. Jacques-Henri Hérault, un zéro aux yeux de nombreux supporters. Outre la gestion économique et sportive discutable, malgré une finale tout de même de Ligue Europa en 2018, c'est la personnalité qui ne passait pas. Hein, le diplôme obtenu à Harvard, les présentations PowerPoint ou encore les sorties maladroites contre les salariés marseillais de Marseille qui seraient trop impliqués émotionnellement, auront agacé parfois à l'extrême, témoin la récente intrusion de certains supporters au centre d'entraînement. Nouvelle surprise, l'Espagnol Pablo Longoria, le directeur sportif, plutôt épargné par les critiques, se retrouve seul à la barre au poste de président sous son commandement. Un nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli. Sampaoli, un Argentin porté vers l'attaque au sang chaud. Sur le papier, le coach parfait pour Marseille. Sampaoli, révélé sur le banc du Chili, un beau mondial en 2014, la première Copa América du pays un an plus tard. C'est lui, Sampaoli, qui partage déjà une passion avec ses nouveaux supporters, celle de Marcelo Bielsa, un autre entraîneur argentin passé lui aussi sur le banc du Chili et surtout sur le banc de Marseille.
Quelques résultats de foot en France avec 2 matchs hier. Le Paris Saint-Germain qui a battu Dijon 4-0 et Bordeaux qui s'est incliné face à Metz 2-1. En Angleterre, le leader Manchester City a battu West Ham à la 4e place, 2-1. En Espagne, le FC Barcelone à la 2e place a battu Séville, qui est à la 4e place, 2-0. En Allemagne, victoire du Bayern de Munich, premier au classement, contre le FC Cologne, 5-1. Leipzig, 2e, a battu le Borussia Mönchengladbach, 3-2. Wolfsburg, qui se trouve à la 3e place, a battu le Hertha Berlin 2-0. En Italie, la Juve de Turin à la 3e place et hélas Verona ont fait match nul, 1-1. Au Portugal, le FC Porto à la deuxième place et le Sporting Portugal à la première place ont fait match nul 0-0. On vous propose maintenant ce coup de projecteur sur le Sporting Portugal avec Vincent Barros pour Radio France Internationale.
À l'affût depuis de longues années, voilà que les Lions du Sporting rugissent à nouveau. À l'aube de la 21e journée, les Lions sont même indomptables cette saison en Ligue Anoche. 17 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Un règne sans partage que les supporters, privés de leur stade Alvalade, suivent devant leur écran ou sur les ondes. Et chaque week-end, c'est la même émotion.
De
buts marqués au total et seulement 10 encaissés par la meilleure défense du championnat. Une défense à 3 axios, emmenée notamment par le capitaine uruguayen Sébastien Coates, leader influent du vestiaire, mais aussi le marocain Zouer Fedal, dans la forme de sa vie à 32 ans et auteur de son premier but le week-end dernier. Rien n'arrête donc le Sporting cette saison. 70 ans, oui, 70 ans que le club n'avait pas eu une telle avance en tête du classement. 10 points sur son adversaire du soir, le FC Porto, 11 sur Braga, mais surtout 15 sur Benfica, son grand rival de Lisbonne. En plein cœur de la capitale, Emilio est le patron d'un petit restaurant dont les murs sont recouverts des écharpes vertes de son club de cœur. Pour ce supporter historique, le Sporting profite à plein de l'insolence de sa jeunesse.
Le club a décidé de miser davantage sur les jeunes cette année et ça paye puisqu'on domine pour l'instant le championnat, grâce à Dieu.
Symbole de cette nouvelle garde, Pedro Gonçalves, 22 ans, auteur d'une très belle saison l'an passé avec le promu Famalicão. Le milieu offensif a été recruté à l'intersaison. Bonne pioche, puisque Gonçalves, grande révélation du football portugais cette saison, est l'actuel meilleur buteur de la Ligue Anoche avec 16 buts, loin devant ses poursuivants et rivaux du FC Porto, Mehdi Taremi et Sergio Oliveira, 9 buts chacun. Champion en titre, le FC Porto ne fait donc plus peur au Sporting, qu'il a d'ailleurs battu 2-1 le mois dernier en demi-finale de la Coupe de la Ligue, un trophée finalement remporté dans la foulée par les Lions face à Braga. L'objectif désormais, le doublé Coupe Championnat, la Ligue Anoche étant le dernier enjeu du Sporting, éliminé très tôt cette saison des compétitions européennes, à la différence par exemple de Porto, récent vainqueur de la Juventus de Cristiano Ronaldo, et toujours en lice des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
On revient sur la Europa League de jeudi dernier avec Arsenal qui a gagné 3-2 contre Benfica, 2 de Aubameyang, Eric Mamrut de RFI avec quelques résultats de cette soirée de jeudi.
Victoire 3-2 des Gunners face à Benfica lors du 16e de finale retour avec le but libérateur inscrit par le Gabonais à la 87e minute. Ça passe de justesse pour le Milan AC après son nul 1-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. But milanais de l'Ivoirien Franck Kessié sur pénalty. C'est terminé également pour Lille, battu à Amsterdam par l'Ajax 2-1, soit le même score qu'à l'aller. Et pour Leicester, surpris à domicile 2-0 par le Slavia Prague, grâce notamment à un but du Sénégalais Abdallah Sima.
Un mot de tennis avec le tournoi de Montpellier, la finale ce dimanche entre Bautista Agut, l'Espagnol, et Goffin, le Belge. Adélaïde avec le tournoi WTA qui a été remporté par Swiatek, la Polonaise. Elle a battu la Suissesse Bencic 6-2, 6-2. Retour et coup de projecteur sur Naomi Osaka, qui, comme vous le savez, a gagné la finale de l'Open d'Australie le week-end dernier. Mais quel travail fait-elle en dehors des cours de tennis ? Analyse de Camille Pain, ancienne joueuse française. Elle est avec Eric Mamrut.
Un sacré personnage, surtout que ces derniers temps, elle a montré qu'elle n'était pas si timide que ça en prenant des positions fortes contre le racisme, contre le sexisme. Elle a véritablement pris une autre dimension et ça ajoute à son personnage.
C'est vrai que c'était surprenant parce qu'on l'avait découverte extrêmement timide. On se souvient qu'elle avait pleuré à la remise des prix de l'US Open parce qu'il y avait un quiproquo avec Serena. On s'est dit, voilà, c'est une jeune fille qui va peut-être un jour se faire bouffer. Et elle nous a surpris justement en prenant position parce qu'en plus, elle est toute jeune. En plus, elle est métisse, donc elle se sent impliquée sans en faire trop. Et moi, je pense que dans le tennis féminin, pendant longtemps, si on n'était pas ultra glamour ou très, on va dire, sur le côté sexy de la joueuse de tennis, voilà, on se disait, bon, ben, au niveau com, c'est mort. Alors qu'elle, elle est en train de montrer que, ben non, ça évolue, qu'effectivement, ben, c'est bien que les joueuses soient jolies sur le terrain, bien habillées, mais comme partout, et les hommes aussi. Et en fait, elle est en train de prendre position sur, effectivement, ce qui lui tient à cœur, sur des faits de société. Et donc, j'ai l'impression qu'elle est en train de donner un nouveau souffle aussi à la communication des athlètes dans le monde, au niveau féminin surtout. Elle donne son point de vue, et je trouve que c'est une super belle manière de faire parler d'elle d'une manière qui lui correspond réellement. Elle joue pas un jeu. C'est pour ça que je pense qu'elle va prendre, en grandissant, en vieillissant, une espèce d'aura, et elle va avoir beaucoup de charisme, cette jeune fille, dans le futur.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Et maintenant, on passe à la rubrique hebdomadaire personnages et se focus sur Daft Punk. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement et une personnalité qui ont marqué l'actualité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Daft Punk.
Et oui, Daft Punk, le groupe d'électro français, électro c'est-à-dire musique électronique, hein, le groupe Daft Punk, mondialement connu, a annoncé qu'il se séparait, fin de l'aventure commencée en 1993. Alors les deux protagonistes, hein, du groupe, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, ils ont surpris tout le monde en officialisant cette rupture. Ils l'ont annoncé via une vidéo publiée sur YouTube intitulée « Épilogue » et sur cette vidéo qui a été vue des centaines de millions de fois depuis le début de la semaine, on les voit avancer dans le désert en blouson de cuir avec l'inscription « Daft Punk ». Ils portent tous les deux un casque, forcément, c'est leur marque de fabrique. Hein. Durant 30 ans, on n'aura quasiment jamais vu leur visage. Les Daft Punk, stars mondiales de la musique électro, comme l'était Jean-Michel Jarre dans les années 80. Les Daft Punk, donc, pour cet épilogue, dans le désert, casque d'or et d'argent vissé sur la tête. On entend le vent qui souffle. L'un des deux ralentit, l'autre continue de marcher, tel des robots. Ils se retrouvent finalement face à face. Ils se regardent, se fixent à travers leur casque, une mise en scène, hein, pour dire au revoir. Ils activent un détonateur sur le dos de l'un d'eux et c'est l'explosion, les corps, les robots qui explosent. Et ensuite, la vidéo se termine par la reprise, hein, de l'une de leurs plus belles chansons, Touch, avec ses paroles en boucle, Hold on. If love is the answer, you're home. Pourquoi se sont-ils séparés, les Daft Punk, hein? Pourquoi la fin du groupe? C'est le mystère, hein, mais les deux compères, ils l'ont toujours cultivé, ce mystère, durant leurs 30 ans de production. Déjà, on l'a dit, ils n'apparaissaient que casqués. Et ils ont su, tout au long de ces années, cultiver le secret, la rareté, capable de rester des mois, des années parfois, sans donner de nouvelles, peu d'albums, peu de concerts, un marketing de haute voltige et surtout cette capacité à entraîner les foules, hein, de par leur mélodie, cette musique électro. La plupart des gens ne connaissaient pas leur nom, Thomas et Guy-Manuel, ils ne savaient même pas forcément qu'ils étaient français, mais tout le monde, depuis 30 ans, a dansé sur Daft Punk ou fredonné l'un de leurs tubes. Alors, est-ce que le duo s'est définitivement séparé? Est-ce qu'il ne s'agit que d'une pause pour mieux revenir? Mystère, on l'a dit. Mais pour l'heure, Daft Punk, c'est fini.
Si on revient un petit peu en arrière, quelle est l'histoire de Daft Punk, les grands moments du groupe?
Bien, au départ, il y a deux amis d'enfance, deux collégiens qui vivaient, faisaient leur scolarité à Paris. Ils forment d'abord en 1991 un groupe de rock avec un autre copain, mais très rapidement, le trio devient duo. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo découvrent la frénésie de la house musique au début des années 90. Et ils se lancent, ils créent Daft Punk. Ils vont vite devenir les rois de la musique électro en utilisant toute la technologie à leur disposition, les voix métalliques, l'autotune. Daft Punk devient très vite la référence en France et s'exporte à l'international. Hein. C'est là qu'ils ont été au-dessus de tout. Ils deviennent le porte-drapeau de la French Touch. Ils sont passionnés de science-fiction, de cinéma, et c'est de là que leur vient cette idée géniale de créer leur propre personnage de robot masqué. Alors leur premier gros succès, Daft Punk, c'est en 1995 avec Daft Punk, des casques, des costumes, vous ne les verrez jamais en public tels qu'ils sont. Ils sortent leur premier album, Homework, en 1997, le second en 2001, Discovery, qui contient certains des plus gros succès du groupe, One More Time, Digital Love ou encore Harder, Better, Faster, Stronger. Daft Punk compose aussi des musiques de films. Deux autres albums ont suivi, Human After All, puis Random Access Memories, qui récolte, Random Access Memories, une multitude de récompenses, 4 millions d'albums vendus et le titre phare notamment de Get Lucky. Les fans de Daft Punk attendez avec impatience le cinquième album. Il n'y en aura pas tout de suite. En tout cas, lundi dernier, le 22 février 2021, Daft Punk a dit stop. Le groupe qui explose, mais on ne va pas se quitter comme ça. On se quitte en musique, une fois encore, One More Time.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Luc Didon qui dirige l'Alliance française de Brisbane. Bonjour à vous, Luc.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Et je pense tout de suite à l'Alliance française French Film Festival. Ça arrive prochainement, c'est à partir du 17 mars, dans plusieurs salles à travers Brisbane.
Absolument, donc comme tous les ans, ce sera donc la 32e année que nous organisons avec les autres collègues des Alliances françaises du French Film d'Australie. Donc le Alliance française French Film Festival, 32e édition ici à Brisbane. Comme vous le savez, la 31e édition l'année dernière a été un petit peu hectique. On a dû l'annuler la veille de l'ouverture ici à Brisbane et on a réussi fort heureusement à la relancer au 14 juillet. Et donc on a pu donner l'opportunité à tous nos spectateurs de cinéphiles de pouvoir voir quand même cette superbe sélection de films que nous avions l'année dernière. Et donc cette année, on travaille d'arrache-pied et donc ouverture prévue le 17 mars à Brisbane.
Et on connaît déjà le nom des films pour l'opening night et la closing night.
C'est ça, je peux pas révéler l'ensemble du line-up, hein, puisque c'est révélé
graduellement.
Différentes selon un certain calendrier qui est fixé par les coordinateurs à Sydney. Eh bien non, nous avons effectivement annoncé le opening film et ce sera une première mondiale. Première mondiale avec le film Eiffel, qui sortira en France que au mois de mai et que nous aurons la chance, nous, en Australie, de le voir en première. Donc, pendant le Alliance française French Film Festival, Eiffel, c'est un film, un grand film, avec Romain Duris et Emma Mackey. Romain Duris qui joue le rôle de Gustave Eiffel. Et donc toute une histoire d'amour qui tourne autour de et pendant la construction de la Tour Eiffel il y a eh bien combien d'années 200 ans maintenant je crois un peu plus.
Oui, d'accord.
Voilà, donc une première mondiale, on est très fiers d'avoir pu avoir ce film là pour notre Alliance française French Film Festival. Ça veut dire que nos producteurs et distributeurs de cinéma français ont confiance dans le public dans le public australien. Ils ont conscience que ce public est vraiment cinéphile et mérite le meilleur du cinéma.
Et on connaît aussi le titre du film de La Closing Night.
Et oui, c'est un film très français qui s'appelle I Am Here. En fait, le titre exact, c'est hashtag I Am Here, ou en français, c'est Je suis là, avec Alain Chabat. Et c'est une histoire donc qui se passe, que vous pouvez le deviner, sur les réseaux sociaux, et puis avec un lien dans le réel. Et je ne veux pas donner trop de détails sur le déroulement de ce film, mais donc un film plein d'actualité, et puis avec les grands talents comme Alain Chabat, on est sûr que ça va être un très beau film. Mais alors, à savoir, donc, Closing Night, comme d'habitude, la Closing Night, c'est un événement festif, mais c'est la seule occasion qu'on a de voir ce film-là avant qu'il soit avant que d'une éventuelle distribution dans le réseau dans le réseau australien, avant une éventuelle distribution commerciale. Donc il est projeté juste un soir, le soir de la clôture de notre festival, donc à ne pas manquer, mais puis toujours festif, hein, comme la soirée d'ouverture, des bulles à manger, et puis le film.
Et j'imagine, Luc, comme les années précédentes, il y aura ces soirées spéciales organisées à la Brisbane.
Oui, en fait, on a vu les incertitudes, on a réduit le nombre de soirées spéciales, donc on fera juste un Taste of France autour d'un film, un film qui s'appelle Délicieux. Le Taste of France aura lieu le 23 mars au Palace Barracks à Brisbane, et ce sera donc autour de ce film qui est donc le premier chef qui ouvre un premier restaurant un peu avant la Révolution à Paris. Donc une belle soirée en perspective, et comme tous les ans, festif, toujours les bons vins, les bons plats, et un très bon film également.
Merci, Luc.
Merci beaucoup, Jean-Noël.
Merci, Luc, et à très bientôt.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce 28 février. Une enquête indépendante sur la culture du travail au Parlement, avec les termes de référence connus bientôt. Auckland, en Nouvelle-Zélande, entre dans un verrouillage d'une semaine pour contenir la propagation du Covid-19. En France, avec l'épidémie de Covid-19 qui menace de flamber. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger gratuitement nos podcasts sur sbs.com.au/french. Très belle fin d'après-midi. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.